Prince en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions, apparemment scientifiques, paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Si les premiers insectes apparaissent à la fin du Dévonien, il y a 400 millions d'années dans l'histoire évolutive, il faut attendre le milieu du Crétacé et l'arrivée des plantes à fleurs, il y a à peine 100 millions d'années, pour voir s'installer les insectes végétariens et butineurs. Les abeilles sont de cela. Encore que les apidées anthropophiles ou abeilles sont arrivées bien dernières. En fait, il existe 20 000 espèces d'abeilles. Mais dans ce groupe immense d'insectes qui se baladent de fleur en fleur, seules 9 espèces constituent ce qu'on appelle les abeilles domestiques, dont la vie sociale nous a inspiré tant de contes et de légendes, mais nous a aussi offert, par un détour de l'évolution, le nectar distillé que l'on appelle le miel. Les abeilles domestiques sont donc une rareté au sein du monde des abeilles. Mais si cette curiosité de la nature a une histoire totalement liée aux fleurs, paradoxalement, la fleur est aussi l'ancêtre des abeilles domestiques. Et l'apparition des mammifères du Crétacé leur a donné leur essor. Voilà bien une histoire étrange. Sans les abeilles, que seraient donc devenus les mammifères? Mammifères dont l'apparition évolutive et la radiation ont totalement dérivé de ces plantes nouvelles qui ont installé leurs fleurs sur la planète. Car faune et flore sont toujours associées dans une écologie évolutive. Les butineurs constituent d'abord des pollinisateurs. Et cette grande aventure de la pollinisation a promené de fleurs en fleurs l'équilibre des plantes et des animaux. Pourtant, seules quelques abeilles participent à cette pollinisation des fleurs qui a tellement bouleversé le monde et les insectes. Des millions d'autres espèces d'insectes butinent et pollinisent. Les abeilles domestiques n'y collaborent qu'un tout petit peu. Le ratel africain l'ignore et pourtant il sait trouver les abeilles. Il écoute le chant de l'oiseau indicateur qui lui raconte son secret perché sur un arbre, où se situe le nid des abeilles sauvages. Entre l'oiseau et le ratel commence alors un rituel. L'oiseau vole d'arbre en arbre, suivi par le ratel. Puis l'oiseau indicateur siffle plus fort et s'immobilise près du nid des insectes. C'est là que le ratel va étriper le nid de ses griffes aiguës, le déchirer pour goulûment avaler le liquide sucré. Et les piqûres ne l'incommodent pas, car il est pourvu d'une peau solide et de grands poils. L'oiseau va partager ce festin en s'emparant des larves. Voilà l'histoire immémoriale des interactions écologiques entre pollinisation et coopération. Aujourd'hui, l'abeille est devenue l'un des symboles de l'écologie fonctionnelle, mais il y a bien d'autres histoires encore chez les abeilles. Qui dira que la reine, en son pouvoir, fonde la ruche et les essaims? Dans la cavité naturelle ou dans la ruche où est disposé le nid, toute la colonie vit autour de la reine. Une colonie d'abeilles sans reine est même condamnée à mourir. Et cependant, une reine seule ne peut rien. On avait pris l'habitude de considérer Sa Majesté des abeilles comme une dominante, qui décide de tout l'avenir de la ruche. On avait décrété que la dictature chimique des abeilles reposait sur le pouvoir monarchique qu'avait la reine d'empêcher les ouvrières de se reproduire. Mais voilà que d'autres histoires évolutives se dessinent aujourd'hui, que les chercheurs regardent les essaims et les colonies. Comme les fourmis se sont révélées paresseuses, la ruche révèle de nouveaux mystères sur l'organisation sociale des abeilles. Leur vie paraît bien plus complexe que ne se l'imaginaient les chercheurs, et d'autres scientifiques avancent même que les abeilles pourraient bien s'avérer être les championnes de la démocratie. Car il y a de la démocratie directe chez les abeilles, de la décision par consensus, et même, nous le verrons, de l'anarchisme critique. On nous avait habitués à l'autocratie de leur monarchie, mais nous sommes sur Radio Libertaire et nous avons donc plus d'1h30 pour en disserter.
Devant ce magnifique vol du bourdon interprété par Rimsky-Korsakov, nous revoilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à décortiquer la biologie. Aujourd'hui, dans notre nouvelle émission de Sciences en Liberté, nous allons présenter, et oui, la démocratie chez les abeilles.
Et pas que, toute l'histoire de la fonction de communication chez les abeilles.
Alors, Thierry, qui sont ces abeilles? Comment vivent-elles?
Eh bien, s'il y en a, la majorité des abeilles sauvages sont d'abord des êtres solitaires, car elles ne fondent pas de colonies. En fait, les premières abeilles, au sens strict, sont probablement apparues à peu près en même temps que les premières fleurs, c'est-à-dire il y a à peu près 100 millions d'années. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'était les gymnospermes qui dominaient la planète et qu'il faut attendre un certain temps pour que les plantes à fleurs ou angiospermes apparaissent. Ça se passe vers le milieu et la fin du Crétacé. Puis la grande crise Caté, la crise des dinosaures, va permettre aux abeilles et à tous les insectes pollinisateurs de s'installer. Les études génétiques suggèrent que les abeilles proviennent, comme la plupart des fourmis, d'une spécialisation à partir de guêpes, plutôt prédatrices, qui proviendraient très probablement d'un groupe qu'on appelle les crabonidés. Et ce changement de comportement va principalement être lié au fait que ces guêpes se promenaient sur les plantes, sur les fleurs, et qu'elles se couvraient de pollen et qu'elles pouvaient aussi consommer du pollen. Il y a pas mal d'insectes qui sont capables de consommer du pollen et des insectes en même temps. C'est le cas, par exemple, des émérobes ou d'autres insectes de ce style. Donc là, chez les guêpes, il a juste fallu un petit changement de régime alimentaire pour passer à cette consommation. N'oublions pas qu'elles se couvrent de ce pollen et qu'elles avalent le nectar que les fleurs leur donnent, ce nectar qui sera par la suite transformé en miel. Les abeilles probablement étaient au départ solitaires et spécialisées, donc une pollinisation de certaines fleurs. Et puis certaines, plus tardivement, ont évolué vers des formes sociales qui vont devenir des pollinisateurs généralistes, vont être capables de polliniser différents types de fleurs. Mais tout ça, évidemment, c'est assez complexe puisqu'on sait qu'il y a des abeilles qui sont retournées ensuite à l'état solitaire.
En fait, comment se passe exactement la pollinisation ?
Alors, chez les phanérogames, c'est-à-dire chez les plantes qui sont dites plantes à fleurs, la fécondation ne peut se produire qu'à condition que le pollen soit transporté d'un pistil à un autre. C'est ça, la pollinisation. Le transport, en général, il est fait par le moment aérien, par le vent. C'est ce qu'on appelle les plantes anémogames. Mais dans 80% des végétaux, les plantes sont entomogames. C'est-à-dire que ce sont des insectes qui vont les polliniser. Il y a aussi des chauves-souris, il y a aussi des mammifères qui peuvent participer à la pollinisation. Les abeilles domestiques vont être à peu près entre 65 et 80% des insectes pollinisateurs selon les types de plantes qui sont autour de nous. Mais les abeilles solitaires sont beaucoup plus fréquemment actives dans cette pollinisation des plantes. En fait, la pollinisation par les abeilles, c'est quelque chose de très important d'un point de vue écologique. On considère que sans toutes ces abeilles solitaires et domestiques, il y aurait quand même beaucoup moins de possibilités d'apparition des plantes dans les 60% des plantes en moins à peu près.
Et donc ça a une importance capitale.
Une importance capitale. Mais il faut reconnaître aussi que d'autres insectes sont capables de polliniser. Il existe, je l'ai dit tout à l'heure, aussi des mammifères et beaucoup d'autres espèces qui peuvent polliniser, y compris parfois des oiseaux. On pense par exemple à toutes ces petites mouches capables de polliniser et qu'on oublie le plus souvent. Alors, le pollen va être présent sur les étamines, à la surface de la fleur, et il va coloniser ensuite les graines femelles transportées par les abeilles. C'est de manière involontaire, elles vont mettre en contact donc les gamètes mâles et les gamètes femelles des différentes fleurs. Les abeilles vont aussi profiter de cette pollinisation puisqu'elles récoltent le nectar et le pollen. Le pollen leur sert aussi de réserve alimentaire, on en a parlé tout à l'heure. Et le nectar est évidemment l'élément qui attire la fleur. Le nectar, c'est une sorte d'eau sucrée que produisent en général les fleurs. Il y a quelques fleurs qui n'en produisent pas et qui trichent dans ces cas-là en se déguisant, comme chez les orchidées, en se déguisant en insectes femelles, histoire d'attirer les mâles. Ici, comme ce sont des femelles qui fonctionne dans la ruche, évidemment, le contact va se faire
finalement,
principalement
par elles. Finalement, les abeilles sont des ondes très muteuses, quelque part, entre mâles et femelles.
Alors, il faut qu'il y ait une grande densité de fleurs autour de la ruche, puisque ça va permettre d'assurer le temps de la quantité de nourriture, et puis aussi, bien sûr, le temps de recherche. La pollinisation par les insectes est un enjeu très très important pour l'écologie puisque cette fécondation va être une fécondation de type croisé ou si l'on préfère une fécondation sexuelle croisée et ça va permettre évidemment d'assurer la diversité génétique des plantes. Cette diversité génétique qui va empêcher la dépression consanguine, qui va donc limiter les difficultés génétiques pour chacune des plantes et permettre de faire face à tout ce qui peut être modification climatique, perturbation environnementale et toutes les maladies possibles.
Quel est leur mode de vie, en fait, aux abeilles, finalement ?
Alors, comme on l'a dit, la majorité des abeilles, ce sont des abeilles sauvages, solitaires. Elles ne fondent pas de colonies pérennes. Ce sont en général des animaux qui vivent parfois en petits groupes, en se rassemblant, mais elles vivent de manière plus ou moins solitaire. Ce sont des femelles qui vont construire individuellement un petit nid au sol, souvent sous les pierres, dans des trous d'arbres, et puis beaucoup dans des coquilles d'escargots. On les connaît bien, ces abeilles-là. Ils peuvent avoir des vies malgré tout ensemble, plus ou moins communautaire, mais sans être social. Si les femelles ont parfois une même entrée de nid, elles vont quand même construire des petits nids différents. Et surtout, elles vont s'occuper seules de la construction de ce qu'on appelle des cellules en cire pour que les larves puissent y vivre. Et généralement, ces abeilles-là n'ont pas de contact avec leurs descendants. Elles construisent cela et elles abandonnent avec la nourriture. La larve se développe toute seule. Certaines espèces vont habiter des plantes, elles vont même nidifier dans des tiges de plantes. C'est le cas, par exemple, de celles qui habitent les ronces ou celles qui sont xylocoles, c'est-à-dire qui vont habiter dans le bois. Souvent, c'est à partir de trous qui ont été faits déjà par d'autres insectes qu'on appelle les xylophages, principalement une sorte de gros bourdon qu'on appelle le xylocope. Et il y a d'autres espèces qui peuvent creuser dans la terre, dans le sable,
etc. C'est d'ailleurs très surprenant parce qu'on voit des petits trous comme ça, on se demande ce que c'est. Et finalement, on observe, on voit partir des abeilles. Oui. Alors, comment s'organisent les abeilles pour réaliser toutes ces tâches? Toutes leurs tâches de travail.
Alors évidemment, comme on voit que chaque opercule va boucher chaque élément de cire, que tout ça, ça forme un grand ensemble, on s'aperçoit qu'il y a une nécessité d'effectuer un très gros travail pour fabriquer les rayons de cire, les boucher, pondre les larves, s'en occuper, les nourrir, mettre de côté les réserves, etc. Et ce qui caractérise nos abeilles, qu'on appelle les abeilles domestiques ou abeilles mellifères, qui transportent le miel, C'est cette division du travail en castes particulières. Alors la première des castes, c'est la reine, qui est généralement unique chez les abeilles domestiques. Une reine unique, donc ce sont des colonies avec une seule reine, on appelle ça des colonies monogames, dont la fonction de reproductrice est se reproduire et de réguler la quantité d'œufs qu'elle va produire. Elle seule va féconder les autres abeilles. Elle pond environ entre 1500 et 2000 œufs à peu près tous les jours. Après, il y a des mâles qu'on appelle les faux bourdons, qui ont comme seule fonction de féconder la nouvelle reine lorsqu'il y aura le vol nuptial. Et puis enfin, il y a les ouvrières qui peuvent être, alors environ dans une ruche, on considère qu'il y a environ 50 000 ouvrières. Elles vivent en quelque sorte jusqu'à 6 mois lorsqu'elles sont en hibernation, mais en vie active, réelle, elles ne vont vivre que 38 jours.
Mais c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Et c'est au cours de leur vie qu'elles vont avoir ces différentes fonctions de nourrice, ménagère, magasinière, butineuse. Alors, on pense souvent que la reine permet de diriger les abeilles. Dans la réalité, ce sont des sécrétions de phéromones qui va transmettre des ordres chimiques. Et donc, ça va leur permettre à ces abeilles d'expliquer à telle, à une telle, qu'elle doit faire ceci ou cela. Les larves vont vivre, elles, dans ces rayons qui sont fermés par des opercules. En règle générale, dans cet ensemble qu'on appelle la nurserie, dans lequel il va y avoir tous ces rayons particuliers, il va y avoir 5 à 6 000 œufs, pas loin de 10 000 larves, et puis 15 à 20 000 nymphes qui vont se développer petit à petit. La population d'un nid va dépendre de beaucoup de facteurs, hein, selon la température, la capacité de la reine, les conditions climatiques, l'accès à la nourriture. Tout ça va faire varier, bien sûr, la quantité d'individus dans la ruche.
En fait, le travail est aussi divisé au cours de la vie de l'ouvrière.
Tout à fait, Siona. En fait, l'ouvrière qui va naître, qui va sortir de sa petite cellule, va découper l'opercule, et là sera, pendant les 3 premiers jours, ce qu'on appelle une nettoyeuse. En fait, ça consiste pour elle à se nourrir de ce qu'elle peut, y compris en découpant des morceaux de cire, en renvoyant les parties d'abeilles, les grains de pollen, et puis toutes les crottes, hein, les fesses, qui vont être laissées par toutes les nymphes qui vont éclore en même temps. Tout cela va être nettoyé, tous les lambeaux des opercules vont être enlevés par des nettoyeuses, et le fond de la paroi de la cellule va être séché, poli, pour réinvestir un autre œuf qui pourra s'y développer. En fait, il faut à peu près une trentaine d'ouvrières pour travailler comme cela, comme nettoyeuse. Ensuite, à partir du 3e jour et jusqu'au 10e jour, on va avoir affaire à le fait d'être d'une nourrice. La nourrice, elle va s'occuper de transporter de la nourriture jusqu'au rayon pour s'occuper des larves. Hein. Elle transporte la nourriture, elle s'en occupe. Ensuite, à partir du 10e jour jusqu'au 12e jour, on dit qu'elle est une magasinière. Bon, en fait, quand la butineuse va revenir avec son butin, il va bien falloir transporter ce butin et le magasiner. Donc, elle va donner ce butin à une abeille qu'on appelle manutentionnaire, magasinière, etc. Le nectar, elle va l'aspirer, puisque ce sont des espèces qui peuvent se nourrir par trophallaxie également. C'est-à-dire, elle va régurgiter le nectar à plusieurs reprises en le donnant d'une abeille à l'autre. Et le but est aussi de déshydrater le nectar, parce que c'est comme ça qu'on en fait du miel. C'est petit à petit, en avalant des petits morceaux de ce nectar, que petit à petit, on va continuer à fabriquer ce miel. Le nectar va donc diminuer en quantité. Il n'aura plus que 20% à peu près d'humidité. Et en même temps, bien entendu, cette salive des abeilles va rajouter tous les enzymes qui vont détériorer le nectar pour fabriquer du miel. Le miel, c'est en quelque sorte l'élément nutritif par excellence que les abeilles vont mettre de côté. À partir du 11e jour, elles sont ce qu'on peut appeler des bâtisseuses, hein, mais c'est déjà en fait un petit peu une tâche spécialisée au sein de toutes ces manutentionnaires. Elle va effectuer aussi ses premiers vols pour s'orienter, etc., reprendre un petit peu en main tout ça. Là, elle va perdre une petite capacité de trophallaxie, et puis elle va développer la capacité de construire des alvéoles, toutes ces petites cellules dans lesquelles on va mettre les larves. Et puis enfin, à partir du 15e jusqu'au 18e jour, les ouvrières vont produire des petites écailles de cire qui vont être malaxées avec la salive pour produire en fait tout un ensemble d'éléments, tout un ensemble d'éléments de cire qui vont permettre de fabriquer des choses. Et puis, elles vont aussi participer au fait de varier sur la température de la ruche, faire monter la température ou au contraire la baisser. En général, elles font monter la température autour de 45 degrés, puisque puisque c'est la température où la cire va être beaucoup plus molle pour pouvoir la travailler. Ensuite, avec l'atrophie des glandes cirières, l'abeille va redevenir une sorte de nettoyeuse en jetant les cadavres à l'extérieur, une nettoyeuse réparatrice. Elle va aussi calfeutrer les trous, couper les morceaux de cire, etc. Et puis, au bout d'un moment, elle va participer à la ventilation de la colonie quand la ventilation sera trop chaude, hein, quand il n'y aura pas assez de vent, quand la température va monter. Elle va aussi accueillir les ouvrières qui vont revenir, et puis elle va réparer les opercules, colmater, etc. C'est là qu'on voit apparaître la fameuse propolis qui va servir à recouvrir les cadavres pour empêcher la prolifération des bactéries.
Ah oui, d'ailleurs, on peut s'en servir pour l'humain et c'est quelque chose d'intéressant, la
propolis. Tout à fait. Alors, cette ventilation de la ruche a aussi de l'importance parce que ça va permettre de limiter l'hygrométrie. Ça va permettre de modifier l'hygrométrie de la ruche, de favoriser la déshydratation du nectar, etc. Et donc, ce travail va être coordonné avec celle d'autres qui sont des porteuses d'eau, hein, qui vont amener de l'eau pour permettre également d'abaisser la température ou de la faire monter.
Et chacune son rôle, là.
C'est presque chacune son rôle. On voit que ça part à partir de différents jours. Donc, à partir du 15e jour, ces mêmes abeilles peuvent, par exemple, redevenir maintenant des gardiennes. On va les voir surveiller l'entrée de la ruche, mais il n'y en a pas besoin non plus de centaines de gardiennes.
Oui.
Donc, elles vont fabriquer tout un ensemble de choses et puis venir sur le devant de la ruche pour surveiller qui rentre et qui sort. Elles peuvent même adapter leur comportement pour, par exemple, faire peur aux guêpes ou aux frelons qui peuvent arriver. Et puis, toutes les abeilles étrangères qui sont trahies par les phéromones, puisqu'elles sont toutes enduites de la phéromone de la reine, qui leur donne cette capacité de langage commun. Tout le monde se reconnaît, puisque chacun est porteur de l'odeur commune de la ruche, qui est en fait l'odeur distribuée par les abeilles. On verra dire que les phéromones n'ont pas que ce rôle-là, puisqu'elles ont aussi pour rôle d'inhiber le comportement reproducteur. Et puis, elles vont empêcher les fourmis de rentrer, enfin, etc. Et puis, enfin, elles vont devenir des butineuses du 20e jour jusqu'au jour de sa mort, qui arrive à peu près, on va dire, entre le 30e jour principalement et surtout le 38e jour, 40 jours, où là, elles meurent vraiment de vieillesse.
Donc, finalement, elles vont s'explorer pour aller jusqu'à la mort. Elles vont à l'extérieur,
voilà.
Elles sortent de la ruche.
Voilà. Et c'est ces butineuses-là qui vont apprendre tous les codes, qui vont leur permettre de se parler entre elles, de comprendre qui elles sont, de voler leurs propres ailes. Elles vont amener le fameux nectar qui va permettre de faire le miel. Et c'est selon la distance parcourue, on va estimer que la longévité de ces butineuses va durer donc entre 3 ou 4 semaines à peu près. À la fin de leur vie, il reste encore quelques possibilités. C'est le fait d'être des éclaireuses,
ah, oui.
Puisque là, elles vont pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe un peu partout dans la nature.
Pas aller à ses cours du matin, parce qu'en quelque part il sait que ça lui sert à rien, qu'il préfère s'aîner au salon étudiant plutôt que de se faire chier dans un prof en merde. Il fait sans ambition, un deck en sciences humaines, un peu à reculons sans trop se donner la peine. Il voulait être comédien, mais ses parents lui ont dit que c'était pas un bon chemin pour être heureux dans la vie. Il a pignesse pour rien dans ses études. Pour lui c'est de la foutaise, la crise de platitude. La seule chose qui l'allume, c'est son équipe d'impro ou les pétards qui se fument quand il fait de la radio. Mais sa maman espère qu'il devienne avocat, qu'il fasse un bon salaire, un peu comme son papa. Mais si tu es pas un con, c'est bien que pour être heureux, pour vivre pour ses convictions et non pour celles de ses vieux. Pourquoi chercher un sens à toute leur connerie? Si tu vas tenter ta chance et faire ton chemin dans la vie, parce qu'au fond le vrai plaisir, c'est peut-être juste de pas savoir comment qu'elle va finir. Ta petite histoire. Et y a son grand frère, un genre d'insignifiant, vendeur de cellulaire, qui pensait qu'à l'argent, qui lui dit cette valeur, n'aura jamais d'ouvrage, parce que devenir acteur, c'est péter des nuages. Sa vie est toute tracée, il se pose jamais de questions. Oui, à entendre parler, c'est toujours lui qui a raison. Son petit cul s'en balance, il sait que les gens bornés veulent masquer leur impuissance en essayant d'écraser. Pourquoi chercher un sens à toute leur connerie? Si tu vas tenter ta chance et mets ton chemin dans la vie, parce qu'au fond le vrai plaisir c'était juste de pas savoir comment qu'elle va finir ta petite histoire. Une chance que sa copine. Une fille qui est super fine, qui au moins le comprend. Et s'il y a du talent, elle était s'accrocher et continuer à croire qu'il sera peut-être accepté dans un conservatoire. Et qu'il y a toujours l'option, même si c'est en attendant, faire la figuration dans les téléromans. Parce que pour vivre sa passion et pas regretter plus tard, faut bien comme de raison que tu commences à quelque part. C'est pour ça que demain, il va tout abandonner. Crétins qui veulent pas l'encourager, parce qu'ils signent le vrai plaisir. Au fond, c'est de pas savoir comment qu'elle va finir sa petite histoire. Garder son esprit libre, trouver un peu d'équilibre. Pour le reste, il s'en fout ben, si tu as de demain.
Ticu par les Cowboys Fringants. Bonjour, nous revoilà sur Radio Libertaire, une radio associative, pas comme les autres, et dans cette émission scientifique faite pour tous les aventuriers de l'esprit, science en liberté, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Donc Thierry, résumons, nous avons vu que la ruche était organisée sous forme d'une société très structurée, très organisée.
Très spécialisée en effet, et c'est évidemment pas très facile de comprendre comment la démocratie va s'y placer. Reprenons. Alors, généralement, on considère qu'il y a une douzaine de fonctions, mais certains auteurs disent qu'il y a jusqu'à 15 fonctions chez les abeilles. Et dans d'autres cas, évidemment, selon les calendriers, on va dire que ça peut être même plus complexe que cela, car ça va dépendre beaucoup de la physiologie de chaque animal, donc il va y avoir une certaine flexibilité dans l'organisation de ses tâches. Mais évidemment, la butineuse n'est pas là pour fabriquer de la gelée royale, ce n'est pas tout à fait son cas. Quant aux gardiennes qui ont une hormone d'alerte, elles ne peuvent pas recruter des abeilles pendant plus d'une douzaine de jours pour la défense de la ruche. En tout cas, en coup de chaud, évidemment, toutes les abeilles peuvent jouer un rôle. Et c'est ça qui va tout changer. Car il y a une glande qu'on appelle la glande de Nasanov, qui produit donc une phéromone qui va avoir des fonctions un petit peu multiples et qui va servir à marquer l'entrée de la ruche ou un lieu intéressant comme source de nourriture, le nectar, ou encore parce que c'est un lieu où il y a de l'eau, de manière à ce que les animaux puissent à peu près comprendre quel est leur environnement. Donc cette odeur de la phéromone, c'est celle qui va guider, en fait, toutes les ouvriers. C'est à peu près comme cela. Alors évidemment, on a un rôle important aussi quand il y a la surpopulation, puisque la reine va émigrer avec une partie des ouvrières pour créer une nouvelle colonie, ça va être l'essaimage. Et puis bien sûr, on repart sur le fait que la reine va aussi se nourrir de gelée royale produite par les ouvrières qui n'en consomment que pendant les tout premiers jours.
La ruche est donc une société très organisée, symbole du travail, elle n'est donc point un simple rassemblement d'individus qui, en tant que tel, se comportent comme s'ils vivaient isolés.
Alors, en effet, il y a tout un ensemble d'éléments entre les membres de cette société, notamment des éléments physiologiques. Hein, on a vu l'arrêt d'une forme de données qui vont permettre aux abeilles, à partir de leur physiologie particulière, de ne plus avoir les ressources pour mâchouiller la cire ou pour surveiller. Tout va dépendre d'un ensemble de phéromones. Et la tâche va être coordonnée de telle manière que l'ensemble va être cohérent. En fait, toutes les sociétés d'abeilles vont reproduire à peu près la même chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, évidemment, il n'y a que les reines qui vont se reproduire. Elles le font au cours d'un vol nuptial à quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres de haut. Là, elles vont rencontrer les mâles, elles vont s'accoupler. Et ces femelles, chaque femelle va s'accoupler avec 7 à 9 mâles à peu près, et elle va garder le sperme dans un organe spécialisé qu'on appelle la spermathèque, une sorte de bibliothèque à sperme, dans lequel elles vont conserver ce sperme toute leur vie. Et c'est avec ce sperme qu'elles vont féconder les ovules qui vont produire les ouvrières. Toute leur vie, les reines vont produire ces œufs fécondés qui vont devenir des ouvrières. Et à la fin de la vie, comme elles n'ont plus de sperme, eh bien, elles vont produire des œufs qui vont donner des mâles. Ce sont des ovules non fécondés. Et c'est par parthénogenèse, c'est-à-dire avec un seul jeu de chromosomes, que ces mâles vont apparaître. Ces mâles ne vont donc avoir que la moitié du patrimoine de leur mère, et ceux-là vont à leur tour pouvoir repartir en vol pour le vol nuptial. On dit que ces mâles sont haploïdes, alors que les ouvrières et les reines sont, elles, diploïdes.
La reine va donc s'occuper de pondre, tandis que les ouvrières stériles vont travailler à la ruche.
C'est cela. Alors les ouvrières sont stériles parce qu'elles sont stérilisées par la reine. C'est une organisation vraiment typique de ce qu'on appelle les abeilles domestiques. Mais ça pose évidemment un problème majeur. Pourquoi travailler sans se reproduire ?
Tout
à quoi
fait.
Ça peut servir ? Alors c'est pour ça que certains biologistes ont parlé là de comportement altruiste, puisque ces femelles semblent aider la reine à se reproduire sans du tout envisager même de tenter d'avoir une progéniture. Alors, c'est cette question que Hamilton pense avoir résolue avec la théorie dite de la parentèle. Alors, c'est une explication génétique, on l'a vu. Les descendants disposent de la moitié du patrimoine de leur père et de la moitié du patrimoine de leur mère. C'est ce qui fait que mon frère et moi, nous n'avons que 50% de parenté en commun. Mais cette parenté va être faussée, car si chez les reines, évidemment, elles vont naître de ces éléments-là de cette manière-là, comme là, le père est lui haploïde, il va toujours disposer du même jeu de chromosomes. Et c'est ce seul jeu qui va arriver. Ce qui fait qu'elles disposent en quelque sorte de 100% du patrimoine de leur père, plus de 50% du patrimoine de leur mère. Ces deux ensembles font qu'en moyenne, si on préfère, ça signifie que les ouvrières vont avoir une parenté de 75%. Alors évidemment, pour notre ami Hamilton, 75% de parenté entre elles au lieu de 50% de gènes en commun, ça veut dire que quelque chose de génétique s'est passé. Et donc il en déduit que c'est ça l'explication du comportement altruiste. Pour Hamilton, le fait qu'on dispose de plus de gènes nous permet en quelque sorte de mieux nous défendre ensemble, puisque les individus qu'on va défendre à côté de nous sont ceux qui vont posséder nos propres gènes. En l'occurrence, elles ont même plus intérêt à défendre leurs sœurs qu'à défendre la reine ou qu'à défendre d'autres individus de la ruche, puisqu'elles ont moins de parenté avec la reine qu'elles en ont avec leur propre sœur. Et le fait d'avoir plus de parenté, ça serait la clé de la vie sociale. Voilà ce qui expliquerait, par exemple, le besoin de vivre dans une patrie, de se défendre parce qu'on aurait des êtres vivants en commun, etc. En gros, les Français seraient plus cousins entre eux contre les Allemands, qui seraient plus cousins entre eux, et ça expliquerait génétiquement qu'on avait, en quelque sorte, des ennemis héréditaires, comme on disait dans les années... Voilà, dans les années 10. Évidemment, cette explication est très importante, est intéressante, puisque défendre cette vie sociale va permettre d'organiser cette défense. Et comme les ouvrières vont mieux diffuser leurs gènes sans se reproduire que si elles se reproduisaient, puisqu'elles ont 75% de gènes qui apparaissent à chaque fois que la reine se reproduit, ben évidemment, c'est un avantage. Par contre, ça se heurte à deux obstacles majeurs. D'une part, évidemment, les reines sont loin d'être fécondées par un seul mâle. On l'a vu, au cours du vol nuptial, elles obtiennent le sperme de 7 à 9 mâles, ce qui réduit la parenté entre les descendants, puisque ce n'est pas le même mâle.
Oui, donc il y a moins de diversité quelque part.
Il y a au contraire plus de diversité, puisque ce n'est pas un seul mâle qui va se reproduire, mais jusqu'à 12 mâles même, chez la plupart de ces abeilles. Donc la parenté génétique des ouvrières est souvent très très inférieure à 75%. À dire vrai, elle est même beaucoup plus proche de 25 à 27%, ce qui fait d'elles plutôt des cousines que des sœurs. Donc on voit à quel point la parenté va être réduite un peu à néant. Et puis surtout, elles ont donc du coup aucun intérêt à la génétique de la parentèle. Mais surtout, la reine va aussi émettre un nombre très important de phéromones qui ont un rôle pour inhiber en fait la reproduction des autres. Ce sont principalement des phéromones produites par les glandes mandibulaires, les glandes abdominales et puis celles mises par les pattes. Mais cette phéromone mandibulaire, qui est composée de 5 composés, vont fonctionner ensemble. Ça va être réparti sur tout le corps de la reine par contact avec les ouvrières, et ces phéromones sont très rapidement dispersés dans la ruche. Certains individus vont être plus proches de la reine, vont en avoir tellement qu'ils vont même participer à la défense de la reine, au fait de marquer les œufs, de marquer les ouvrières. Et donc le rôle principal de cette phéromone mandibulaire, c'est d'inhiber le principe de l'élevage. Lorsque la reine vieillit, sa production de phéromones mandibulaires va diminuer, ou lorsqu'elle meurt, évidemment, les ouvrières vont du coup fabriquer des cellules qui vont accueillir des animaux fécondés qui vont pouvoir se redévelopper en reine. Alors, les ouvrières ne sont pas des ouvrières génétiquement. Elles ne sont stériles que parce qu'elles produisent des phéromones qui vont les rendre... Parce que la reine produit des phéromones qui les rend stériles. Par conséquent, ce n'est pas un altruisme. Ce n'est pas « Ah tiens, j'ai envie de défendre ma sœur parce qu'elle a plus de gènes, etc. » en commun. Non.
C'est l'effet de la reine.
Je suis obligé de le faire parce que la reine m'a induite de tout un produit qui m'empêche complètement de faire autre chose. Et avec cette garde rapprochée dont la reine dispose, évidemment, ces phéromones stérilisantes vont être diffusées, déposées sur toutes les ouvrières. On n'est donc pas dans un comportement altruiste, en tout cas d'après moi, mais bien plus dans un conflit reproducteur dans lequel une femelle va s'emparer de la reproduction en stérilisant toutes les autres. D'ailleurs, c'est ce type de comportement qu'on retrouve chez les animaux les plus primitifs, chez les abeilles les plus primitives, qui ont encore un début de vie, ou chez les fourmis, hein, on en avait parlé, qui ont encore un début de vie non social, ou du moins avec une socialité plus communautaire. Donc la femelle des abeilles n'est pas du tout altruiste. Chez les abeilles mellifères, cette sécrétion produite par la reine mère va vraiment rendre toutes les ouvrières stériles. Et on voit que la reine va émettre un nombre très important de phéromones qui vont donc inhiber ce comportement particulier.
Il existe même des abeilles anarchistes.
Eh oui, du moins c'est comme ça que Martin et Hall ont intitulé leur publication parue dans Behavior Ecology en 2004 en expliquant qu'il existait effectivement des ouvrières anarchistes. Alors c'est parce que tout simplement tous les œufs qui vont être marqués du sceau royal, de ces fameuses phéromones, vont être en général consommés, vont être utilisés pardon, pour devenir des ouvrières, alors que tous ceux qui ne sont pas enduits de cette phéromone, ben, ils seront détruits ou consommés par les fameuses gardiennes de la reine. Mais certaines ouvrières plus à distance ou qui ont moins fréquenté la reine vont être capables d'éviter cette surveillance et ce marquage, et par conséquent, elles ne vont pas être stériles. Elles vont être capables de pondre. D'ailleurs, la plupart des femelles sont capables de pondre, y compris ces femelles dites stériles. Et du coup, elles vont pondre des œufs qui peuvent être fécondés. Ces œufs, parfois non marqués, vont être découverts et mangés par les gardes, mais certaines femelles réussissent à dissimuler leurs œufs non marqués, et donc évidemment elles vont échapper à la surveillance de la reine. Elles sont capables de produire des œufs, donc elles sont sexuellement aptes à se reproduire, réceptives, elles peuvent donc se mutiner. Alors ça reste assez difficile, mais elles ne vont pas travailler comme les autres, elles peuvent avoir des descendants, elles soit par parthénogenèse avec des mâles avec qui elles peuvent se réaccoupler, soit elles avoir des femelles parce qu'elles vont s'accoupler entre temps, et donc elles vont totalement échapper au devenir
la
de la colonie. Voilà. Et à la surveillance de la colonie traditionnelle. Voilà pourquoi Martin et Hall les a appelés des abeilles anarchistes, des abeilles qui ne font rien comme toutes les autres.
Et donc, pour tout ce petit monde, comment se passe la recherche du pollen et du nectar ?
Alors déjà, il faut considérer que les abeilles sont un peu frileuses. Hein. Au-dessous de 15 degrés, elles ne vont pas sortir de la ruche, il fait trop froid. Et jusqu'à 30 degrés, elles peuvent sortir. Elles vont donc se promener dans la nature avec plein de fleurs, et elles vont chercher évidemment à se remplir le jabot de nectar. Une fois qu'elle a le jabot plein de nectar, la butineuse va revenir à la ruche où elle va passer les gardiennes et la donner à ce qu'on appelait les magasinières tout à l'heure. Ces magasinières vont ingérer le nectar et ça va passer de bouche en bouche et de jabot en jabot. Sous ce passage, il va y avoir une sécrétion particulière qu'on appelle l'invertine qui va permettre au saccharose qui est dans le nectar de se transformer en glucose et en lévulose. Ce nectar va être ensuite mis dans une cellule qui sera bouchée et qui va finir de se transformer en miel. Bon, ça contient à peu près 85% de sucre avec plein de vitamines, plein de sels minéraux. Tout dépend évidemment des fleurs qui ont été butinées, mais ce sont les fleurs avec nectar qui vont produire cette solution sucrée qu'on appelle le nectar et qui contient déjà beaucoup de substances odorantes, de substances particulières, de vitamines. Et toutes ces substances vont évidemment être présentes également dans le miel qui finalement a une sorte de nectar donc complètement desséché, enfin très desséché, il ne reste plus que 10% à 18% d'humidité et qui va conserver d'autres éléments que les abeilles vont lui mettre en le mâchouillant. Alors chaque abeille va à peu près produire jusqu'à 75 mg à chaque fois de ce miel et donc l'abeille va butiner jusqu'à 1500 fleurs à peu près pour fabriquer ce miel. Il faut à peu près 10 à 20 000 voyages d'abeilles quoi, pour réussir à butiner tout cela. Et donc l'abeille va transporter également le pollen hein, jusqu'à 50...
C'est un litre de nectar à peu près
C'est ça, un litre de nectar faut à peu
c'est
près
ça,
20 000 voyages.
Ouais.
Et elle va transporter à peu près 50 mg de pollen à chaque fois, qui est un poids très important, parce qu'une abeille, ça pèse moins de 100 mg, 80 à peu près
milligrammes. Quel travail, hein, quel voyage et
voilà.
Tout.
Et l'élaboration du miel va donc commencer dès le jabot pour finir pendant le retour grâce à ces enzymes, hein, des diastases qui sont ajoutées, puis bien sûr la solution d'hydrolyse qui va permettre que le glucose se transforme, enfin que le saccharose se transforme en glucose. La trophallaxie qui va permettre aussi cette régurgitation.
Alors la trophallaxie, répète,
c'est le fait de passer d'un jabot à l'autre, et ça va permettre de déshydrater l'ensemble de ces éléments. Et donc ensuite, on va également avoir la production de gelée royale, qui est produite par une sécrétion particulière du système glandulaire des glandes hypopharyngiennes et des glandes mandibulaires. Et donc, ces abeilles ouvrières vont porter alors le nom de nourrice en produisant cette substance qui a des reflets plus nacrés, hein, qui est différente de du miel et qui a une saveur plus acide, mais qui va constituer la nourriture exclusive de certaines abeilles qui deviendront les reines.
D'autres abeilles butineuses récoltent aussi la propolis.
Ah oui, alors la propolis est une substance qui couvre le bourgeon des arbres, notamment des saules, des marronniers, et parfois aussi de tout ce qui va être peuplier, enfin tous les salicacés. Ça va être mêlé à des sécrétions salivaires, à du pollen et à d'autres éléments. Et tout ça, ça va permettre de boucher en fait les rayons, mais pas pour faire n'importe quoi, car ça permet d'embaumer les morts, les individus qui sont morts ou les animaux qui ont pénétré et qui ont été tués. Et ça permet d'empêcher, en fait, cette matière va permettre d'empêcher ces animaux d'être pris par des bactéries. Alors, ça a un rôle bactéricide qui est important grâce aux substances résineuses et de gomme que contient la propolis. Qui est recueillie, en fait, c'est en quelque sorte la gomme qui est présente sur les végétaux et qui va être principalement présente sur les bourgeons, hein. Quand vous posez les mains sur des bourgeons, vous sentez cette gomme.
Oui. Alors,
c'est modifié par les abeilles avec l'apport de tout un ensemble d'autres sécrétions, et ça a multiples usages. Alors, ça sert de mortier, on l'a vu, ça permet de colmater, donc d'étanchéifier la ruche, ça va aussi permettre d'être un vernis aseptisant déposé à l'intérieur des cellules avant la ponte de la reine pour empêcher des bactéries de proliférer. Mais ça permet également de momifier des animaux, des intrus, tous les animaux morts qui sont présents dans la ruche et qu'on ne peut pas éjecter. Un mulot qui rentre, par exemple, et bien il va être recouvert par cette propolis et ça va empêcher la décomposition bactérienne. C'est donc un élément bactéricide tout à fait intéressant, d'ailleurs que les humains essayent d'utiliser parfois.
Yeah.
C'était Stryborg qui nous interprétait Rusalka.
Nous revoilà sur 89.4, une radio associative pas comme les autres. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans maître, sans dieu et sans publicité, dans une émission pour vous, les aventuriers de l'esprit. Science en liberté, tous les seconds lundis de chaque mois. Nous revenons maintenant à un thème connu chez les abeilles, la communication. Elle est très élaborée et fait l'objet de nombreuses études.
Oui, évidemment.
Il me semble qu'elle a été découverte par von Frisch, donc tu vas pouvoir développer tous ces éléments.
Alors, dès la fin du 18e, 19e siècle, on pensait déjà que les abeilles avaient un langage, une reconnaissance entre les individus. On savait qu'elles étaient capables de repérer des sources de nourriture ou de résine, qu'elles étaient capables de s'installer à tel et tel endroit. Mais on ne connaissait évidemment pas les activités des phéromones encore. En revanche, on a pu observer, dès le 19e siècle, ces fameux éthologues, en effet, Carl von Frisch, qui a permis d'observer la fameuse danse des abeilles. Il a proposé une explication de communication pour essayer de comprendre quelle était cette danse. Alors, ces découvertes lui ont valu d'ailleurs le prix Nobel en 1973, c'est dire à quel point von Frisch a été important. Alors, von Frisch est un personnage tout à fait intéressant dans...
Von Frisch nous disait « Après s'être débarrassée de sa charge, la pourvoyeuse entame une sorte de ronde. Elle se met à trottiner à pas rapides sur le rayon, là où elle se trouve en cercles étroits, changeant fréquemment les sens de sa rotation, décrivant de la sorte un ou deux arcs de cercle chaque fois, alternativement vers la gauche et vers la droite. » Cette danse se déroule au milieu de la foule des abeilles et est d'autant plus frappante et attrayante qu'elle est contagieuse. La relation ne peut être mise en doute. La danse annonce dans la ruche la découverte d'une riche récolte. Mais comment les abeilles qui en sont averties trouvent-elles l'endroit où il faut aller la chercher? Si nous nous arrangeons pour que des abeilles numérotées appartenant à une ruche d'observation aille récolter au voisinage de celle-ci et qu'au même moment d'autres bêtes marquées de la même colonie remplissent leur jabot à un endroit beaucoup plus éloigné, les rayons de la ruche seront le théâtre d'une scène surprenante. Toutes les ouvrières qui butinent près de la ruche exécutent des rondes et toutes celles qui récoltent loin font des danses frétillantes.
Voilà, c'était le texte original de von Frisch. En fait, on voit bien que lorsque l'exploratrice va revenir d'assez près, car la source de nectar n'est pas loin, elle va faire d'abord une danse en rond qui va leur permettre de dire, en gros, la source de nourriture est dans une cinquantaine de mètres à peu près. Évidemment, cette danse est très rapide et elle va être d'autant plus intense que la charge de nourriture est forte. Ensuite, les autres abeilles vont suivre cette abeille-là et vont aller chercher la fameuse source de nourriture en se guidant par la série des fleurs qui sont à exploiter. La danse en faucille, ça c'est fait pour les danses. C'est une danse qui explique que la distance est un peu plus grande. Alors la femelle va passer en fait à un type de danse dite en faucille. Elle parcourt désormais deux petits cercles plus allongés qui vont être plus ou moins symétriques et elle va avoir une information sur la direction à suivre. En gros, c'est l'angle formé entre l'axe de symétrie et la direction verticale du soleil qui va donner l'angle par lequel les abeilles vont pouvoir poursuivre leur butinage. Évidemment, là, il faut quand même faire une règle de trois. C'est pas simple dans la tête des abeilles, car la danse en faucille va quand même indiquer la direction. Mais la direction reste très, très générale. Après, c'est à chaque butineuse de se débrouiller pour essayer de trouver où est la nourriture. Et puis, il y a la fameuse danse en huit. Alors, la danse en huit, c'est le top niveau de l'indication.
De la danse, tout à fait exceptionnelle.
Puisqu'elle va indiquer à la fois la quantité de ressources à une distance donnée. Et donc, elle va préciser dans l'orientation par rapport à la direction du soleil, non seulement quelle est la direction, mais elle va aussi montrer en quelque sorte où se trouve, dans quelle orientation se trouve le butin et à quelle distance. Ça, c'est grâce au fait qu'elle a des ocelles sur le dessus de la tête, hein, des sortes de dieux, qui sont des organes photosensibles, donc directement sensibles au soleil, et qui peuvent voir à travers les nuages, et ce qui leur permet d'avoir une bonne direction. L'abeille va décrire en fait une ligne droite, puis un demi-cercle, et ensuite elle va retourner tout cela. Alors cette danse frétillante est d'autant plus rapide que la source de nourriture va être proche, et donc ça va donner une bonne indication sur la distance aux abeilles, la direction de la ressource, la distance par rapport à la colonie, et puis en fonction aussi de son excitation, ils vont savoir si la ressource est dense ou pas. Alors c'est pas la direction totale ou la distance totale par rapport à la ruche, ça va dépendre du vent. S'il y a du vent contraire, ben l'abeille va montrer que la distance est plus longue. Si le vent est porteur, elle va montrer que la distance est plus courte. Donc c'est vite une distance subjective, et en fonction de la course du soleil, chacune des danseuses va modifier l'angle pour évidemment que les nouvelles abeilles puissent découvrir où se situe le butin qui va être disponible.
Il y a en fait deux indications principales qui sont données par la danse.
Oui, en effet, il y a d'abord donc cette direction qui va être décrite par le demi-cercle où on revient à son point de départ, etc., qui va donc former un 8, et donc en fonction de la manière dont elle parcourt le diamètre en frétillant, elle va bien indiquer la direction de la source en fonction de cela. Et si la source de nourriture est dans la direction du soleil, elle va se diriger directement en fonction de cette source. Et puis, deuxième information, c'est la distance jusqu'à cette source, qui est indiquée par le nombre de mouvements latéraux de l'abdomen lorsque l'abeille va frétiller. On va voir l'abdomen vibrer, et cette durée de vibration va donner en quelque sorte le type de distance. Alors, plus le mouvement est important, plus la nourriture est éloignée. Et puis il y a la qualité aussi de la nourriture, donc c'est une troisième information en quelque sorte, mais qui est donnée plutôt par un signal stop. Elle va dire en gros, ben voilà, il y a tant de nourriture ou pas tant en fonction de sa manière de le faire. Attention, parce que la qualité de nourriture va être aussi liée à la présence ou non d'autres animaux. Est-ce qu'il y a eu d'autres mouches? Est-ce qu'il y a des prédateurs dans le secteur qui peuvent empêcher tout cela? Et évidemment, tout cela va intervenir dans la communication de l'abeille.
On parle de communication chez les abeilles, mais peut-on considérer cela comme un langage?
Alors, quand Carl von Frisch, dans les années 40, a décrit cela, il a appelé ça le langage des abeilles. Donc, c'est pas totalement faux de penser que ça reste quand même un langage au sens biologique du terme. Car, en effet, l'abeille va fournir des informations réelles. Alors, est-ce que ça atteint un langage symbolique? Cela pourrait être évidemment fait parce que ça permet de transporter des informations par le biais de codes. Un peu comme le feu rouge va nous indiquer qu'il faut nous arrêter, ou que le code qu'on peut lire sur un texte de papier nous indique des contenus. Mais c'est un petit peu plus compliqué quand même. On va dire que la danse des abeilles prend trois formes différentes. Le rond, la faucille et frétillante. Dans le premier code, pour introduire le langage, on va dire que c'est plutôt une correspondance d'angle, que c'est plutôt donc une indication très générale. Mais c'est quand même un premier code. Le premier code qui va indiquer où est la distance. Le deuxième code va ajouter une information sur la distance. Donc on voit que se rajoutent deux éléments l'un sur l'autre. Et puis le troisième code va être celui du langage en quelque sorte symbolique, puisqu'il dit en quelque sorte, ben voilà, subjectivement, il y a des prédateurs, il n'y a pas de prédateurs, la source elle est riche ou elle n'est pas riche. C'est d'autant plus proche du langage qu'on sait qu'il y a en quelque sorte une forme de dialecte selon la ruche considérée.
Alors, en fait, il y a aussi le phénomène de la mémoire dans tout cela. Comment ça se passe pour les abeilles, pour qu'elles retiennent les choses?
Oui, en effet, pour pouvoir dire ces choses-là, il faut qu'elles le retiennent, au moins pendant la courte distance, entre l'endroit où il y a le butin et l'endroit où l'abeille va venir le raconter. Alors, on a utilisé pour cela des sources de nourriture à partir de fleurs artificielles, avec des odeurs et puis des couleurs. Et ça a permis de mettre en évidence que les abeilles avaient bien une mémoire olfactive. L'odeur va être mémorisée, et ça va lui permettre de s'orienter ensuite sur les fleurs, de manière préférentielle, sur les fleurs sur lesquelles elle a trouvé de la nourriture. Alors, les abeilles vont apprendre à mieux exploiter les fleurs au fur et à mesure qu'ils les butinent, et que les prédateurs présents ou vont être moins présents vont permettre de faire tout cela. En revanche, cette mémoire est quand même à court terme, puisque la mémoire diminue aussitôt après l'utilisation de cette source de nourriture, et elle va même presque disparaître pendant la nuit. C'est d'ailleurs un avantage parce que, ainsi comme les fleurs ont une durée quand même de vie assez courte, qu'elles vont se refermer ou qu'elles vont perdre en grande partie leur qualité, c'est pas illogique que le souvenir ne doit pas persister trop longtemps dans les petits ganglions nerveux de l'abeille. Il faut rappeler que les abeilles n'ont pas un cerveau, mais une série de gros ganglions qui sont autour de l'œsophage, ces ganglions périœsophagiens, et quelques autres ganglions le long du cerveau dans lequel la mémoire va en quelque sorte s'organiser. Mais quand même, on s'aperçoit que ces abeilles peuvent aussi apprendre apprendre à ne pas consommer des fleurs toxiques. Et donc, on voit, parce que ça les a rendues malades, etc. Et elles vont retenir cela et pouvoir.
Oui, donc il faut bien qu'elles aient retenu.
Et elles vont le diffuser au sein de la ruche. Il s'agit donc, en quelque sorte, quand même, d'un véritable langage. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But you should glad to brag, so join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6, and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Nous emmenait donc avec ses Comets pour faire un rock around the clock.
Et oui, vous êtes toujours sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, dans une émission faite pour tous les cortiqués du bulbe, science en liberté. Nous voyons maintenant toujours le langage des abeilles, mais comment les abeilles prennent-elles leurs décisions, Thierry ?
Alors ça, c'est un point très important, puisque c'est le titre de notre émission, La démocratie chez les abeilles. Qu'on a d'ailleurs volé à un auteur dont on va parler tout à l'heure. En fait, le premier qui va déchiffrer un autre mode de danse des abeilles, c'était Martin Lindauer, qui, dans les années 1950, va l'appeler la danse du domicile. En fait, c'est plutôt proche de la danse de l'essaim. Car, en effet, à quelques heures ou quelques jours, une seule fois pendant l'année, on va voir cette danse frétillante qui va être exécutée par des butineuses et des éclaireuses, généralement avec des abeilles qui se posent en petits groupes sur une branche et qu'on va petit à petit appeler un essaim au fur et à mesure qu'elles vont se rassembler. Elles ont donc décidé de changer d'endroit. Elles vont abandonner en quelque sorte le lieu qui les a vus vivre et elles vont par la suite en choisir un autre. La question évidemment c'est comment ? Est-ce que ces éclaireuses peuvent décider d'un seul coup de se dire « Oh ben on en a marre de travailler pour cette ruche-là, on s'en va ailleurs ». Et il s'agit en fait d'une sorte de décision prise par des abeilles qui ne sont pas des chefs, hein, qui sont des éclaireuses et des butineuses, même si elles sont un peu plus sur la fin de leur vie. Et donc, Martin Lindauer parlait de démocratie par délégation. Car ce sont des processus de rétroaction positif et négatif. Bah, t'as vu, j'en ai marre. Ah oui, mais non. Moi, je continuerai bien encore un jour ou deux,
et
etc.
C'est parfait, là.
Qui vont permettre de fabriquer un débat contradictoire entre des abeilles qui veulent partir et d'autres qui veulent rester.
Comment, en fait, se forment l'essaim ?
Alors, on sait que l'essaim d'abeilles, on se le représente comme un immense composite qui rassemble en très grand nombre des abeilles à peu près du même groupe. Quand une vieille reine va quitter le nid avec une fraction de sa population pour former une nouvelle colonie, laissant la place à une jeune reine, on va parler d'essaimage. Et l'essaim va fonctionner comme un super organisme qui va être totalement, où les individus vont être totalement coordonnés. Le problème, c'est que l'essaimage, on croyait souvent au départ qu'il était parti par la reine. Or, c'est souvent quand la reine ne produit plus assez de phéromones par rapport au nombre d'ouvrières qu'on va voir certaines ouvrières qui vont partir à fabriquer des alvéoles royales. Et donc la reine va être en quelque sorte expulsée de cette ruche. Voilà pourquoi elle va rejoindre les autres abeilles qui vont être en essaim et qui vont commencer à fabriquer en fait leur propre décision, la possibilité de partir. Mais dans le même temps, la première reine va aussi pouvoir faire naître des jeunes mâles pour un vol nuptial après sa mort, où ceux-là vont reprendre en main en quelque sorte la première reine née va tuer les autres, et la survivante va prendre son envol nuptial pour recommencer à pondre et être fécondée par des faux bourdons. Donc c'est souvent la vieille reine qui va quitter la colonie avec une partie des ouvrières, et évidemment ces colonies vont partir en quelque sorte par essaimage. Là, l'ancienne reine va donc quitter la ruche avec toutes les abeilles qui lui restent en quelque sorte fidèles. Alors elles se sont gavées de provisions, elles disent bon, on y va ou on n'y va pas, mais c'est l'essaim qui va décider de choisir lui-même son propre abri sur un endroit donné.
Mais finalement, comment ça se passe réellement entre l'essaim et la reine ?
Alors il faut comprendre qu'il n'y a toujours qu'une seule reine par ruche, ce qui fait que la première reine qui va naître va tuer toutes ses rivales. Elle tue toutes les autres femelles disponibles qui pourraient être reproductrices pour être la seule reproductrice. Et ensuite, elle va s'envoler pour son vol nuptial. Donc, si la vieille reine est encore présente, elle va être aspirée en quelque sorte par tout cet élément indicateur qu'une nouvelle reine est en cours, et donc elle a intérêt en quelque sorte de partir. La colonie va donc pouvoir se reproduire entre le printemps et le début de l'été. En général, il va se passer 2 ou 3 essaims qui vont partir de là, puisque les animaux vont être expulsés en quelque sorte par la nouvelle reine. Alors, ils s'expulsent tout seuls. Il n'y a pas toujours de reine au sein de cet essaim, mais le plus souvent, il va y en avoir une vieille ou une jeune qui va échapper à la mort. On parle d'essaim primaire, d'essaim secondaire ou d'essaim tertiaire, puisqu'il peut y avoir jusqu'à 3 essaims par an, selon les ruches domestiques.
Mais comment est prise la décision de former un essaim ? C'est quand même étonnant.
Alors à la base, effectivement, cette organisation semble suivre des règles encore un peu monarchiques. On a la vieille reine qui va se retrouver au milieu d'abeilles butineuses qui vont s'installer quelque part. Mais dans la réalité, il y a déjà une cassure au sein des abeilles. Et on va s'apercevoir qu'il s'agit plutôt d'un processus qui tend vers une décision collective. On pourrait même parler véritablement d'une sorte d'intelligence collective.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, donc, une intelligence carrément collective ?
Eh bien, on va dire que c'est une sorte de processus anarchiste. Voilà. Cette intelligence collective va en fait consister à faire que des abeilles qui vont se rassembler pour déterminer en quelque sorte une sorte de consensus. Mais ce n'est pas un consensus total, puisque toute la ruche ne va pas partir. Il s'agit d'un consensus par fission. La ruche va se casser, va se fractionner, et cette fission va permettre à d'autres animaux de fusionner. En biologie, on appelle ça des processus de fission-fusion, et on en trouve de multiples un peu partout dans le monde. Ce consensus va être déterminé sur la nouvelle localisation de la colonie. Donc, les abeilles vont se rassembler, ce sont en général des éclaireuses, qui vont relater une position qui leur semble intéressante pour installer une nouvelle colonie. Là, pour le faire, elles vont danser, et la vivacité de leur danse va dire « là-bas, il y a quelque chose d'intéressant ». On ne sait pas trop faire la différence entre cette danse et la danse qui va permettre de déterminer si c'est un butin ou si c'est autre chose. Toujours est-il que toutes les femelles qui explorent, toutes les butineuses, ont à peu près le même pouvoir d'information et vont présenter d'une manière totalement égalitaire l'information les unes aux autres. Et c'est pourtant là que la découverte d'un lieu ou d'un autre va se faire par les autres butineuses. Et c'est là qu'on va voir des butineuses se mettre d'accord sur une plutôt que sur l'autre. Alors au départ, on pensait que c'était surtout l'intensité de sa communication qui va lui permettre de recruter un nombre important d'abeilles avec qui partir pour aller chacun visiter cela. Mais dans la réalité, elles recrutent au départ un petit nombre d'abeilles, elles partent ensemble, elles suivent cela, elles se disent « tiens, ce site est intéressant » et elles reviennent à plusieurs. Et comme elles reviennent à plusieurs, elles vont encore en recruter davantage pour donner en quelque sorte leur opinion. Tout ça va dépendre de la force, de l'intensité de la danse qui vont leur permettre de découvrir un site. Lorsqu'elles ont découvert ce site, elles vont alors donc venir s'y installer.
Finalement, il y a de plus en plus d'individus qui invitent d'autres individus, et progressivement, c'est des, voilà. invitations successives.
C'est en quelque sorte cela, puisqu'en fait, ça permet, selon l'intensité, de recruter un plus grand nombre d'abeilles butineuses ou éclaireuses. Et chacune va aller évaluer de manière indépendante l'intérêt du site et reviendra. Si elle est intéressée, évidemment, elle viendra. On voit donc qu'il va se générer une sorte de consensus, mais dans un groupe seulement, une sorte de consensus par quorum, on en reparlera tout à l'heure. Car chacune des abeilles va en quelque sorte pouvoir donner son opinion. Oh, finalement, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de danser pour ça, je danse pour la tâche de fleurs qui est à côté, qui est vachement plus passionnante parce qu'on va bien manger. Ou alors, ah si, j'ai vraiment envie qu'on parte, là, vraiment, le site me paraît intéressant, l'autre a raison, on y va ensemble. Et c'est en fait parce qu'il y a une sorte de mutualisation de ces connaissances qui vont petit à petit permettre d'arriver à une décision collective, à un moment donné, où l'essaim va vraiment se former complètement. Et là, on va avoir évidemment cette prise de décision collective faite de manière totalement anarchiste, sur la base d'un thème de consensus, on va le voir, mais par quorum.
C'est un bouquet sans fleurs,
une fleur sans parfum,
un parfum sans odeur,
une odeur sans plus rien.
C'est une idée sans mots,
c'est un mot sans pensée,
une pensée sans cerveau,
un cerveau sans passé.
C'est un bijou sans corps,
c'est un corps sans envie,
c'est une envie sans mort,
c'est une mort sans lit.
Une chanson sans début,
un début sans histoire,
une histoire sans vécu,
un vécu sans mémoire.
Nous avions tout notre temps, celui des papillons, pour faire nos enfants aussi beaux que nous étions. Nous avions tout notre temps, celui des papillons, pour faire nos enfants aussi beaux que nous étions.
C'est un ciel sans espace,
un espace sans limite,
des limites sans trace,
une trace sans suite.
C'est un amour sans cœur,
un cœur sans pulsation,
une pulsation sans heure,
une heure sans sensation.
Un jardin sans verdure,
une verdure sans couleur,
une couleur sans peinture,
une peinture sans hauteur.
C'est un chemin sans fin,
une fin sans baiser,
un baiser sans humain,
un humain sans bébé.
Nous avions tout notre temps, celui des papillons, pour faire nos enfants aussi beaux que nous étions. Nous avions tout notre temps, celui des papillons, pour faire nos enfants aussi beaux que nous étions.
C'est un rire sans bouche,
une bouche sans peau,
c'est une peau sans douche,
une douche sans eau,
une larme sans glot,
un sanglot sans bougie,
une bougie sans cadeau,
un cadeau sans ami,
un désir
sans berceau,
un berceau
sans prénom,
un prénom
sans marmot,
un marmot
sans poumon.
C'est un amour sans cœur,
ce sont deux cœurs sans fruits,
comme deux fruits sans fleurs,
comme de fleurs sans pluie.
Nous avions tout notre temps, celui des papillons, pour faire nos enfants aussi beaux que nous étions. Nous avons tout notre temps, plus celui des papillons, pour faire nos enfants aussi forts que nous serons. Nous avons tout notre temps, plus celui des papillons, pour faire nos enfants aussi forts que nous serons. Nous avons tout notre temps, plus celui des papillons, faire nos enfants aussi forts que nous serons.
C'était les Vrigals qui nous interprétaient Papillons et pas les abeilles. Nous sommes de retour sur 89.4, une radio associative pas comme les autres, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste en Sciences en Liberté. Une émission scientifique où nous nous décortiquons aujourd'hui la prise de décision chez les abeilles. En effet, la prise de décision paraît donc dépendre d'une égalité de la communication chez les abeilles.
Oui, il y a en effet plusieurs pratiques à observer chez les abeilles. On s'aperçoit que ce procédé qu'elles vont utiliser pour prendre des décisions sont un procédé très égalitaire. Chacune des abeilles apporte le même type d'information et c'est parce que cette information va se multiplier, se compléter, que ça va offrir aux abeilles la capacité ou non de prendre des décisions. Alors voilà pourquoi un chercheur va parler de la démocratie chez les abeilles, on va en reparler tout à l'heure, puisque lui il présente ça un peu comme des formes d'élection présidentielle, alors que dans la réalité, c'est l'essaim naturel va procéder en fait d'une sorte d'intelligence collective.
Dans la pratique, ça se passe comment ?
Alors dans la pratique, c'est assez simple. La partie de la population qui va quitter l'endroit où sont les abeilles, la ruche, va s'agglomérer en général pas très très loin, sur une branche le plus souvent. Ça va former une grappe, car chaque individu va se poser sur le dos des autres. Cette grappe va être composée de 10 à 20 000 individus, une moyenne de 15 000 à peu près. Et évidemment, elles vont s'arrêter là en attendant que les choses se décident. C'est donc un rassemblement, un collectif de toutes ces abeilles. Et là, il va falloir leur chercher un gîte. Mais ce gîte, elles l'ont déjà un peu entendu, elles ont déjà un peu dessiné où il était. Ce gîte va leur servir à se protéger, à passer l'hiver ou à se reproduire et à prolonger la vie d'une autre ruche. C'est ça qu'on appelle l'essaim. Alors ce processus de recherche est très très efficace puisque la plupart des observations biologiques tendent maintenant à le démontrer. Que ce soit des scientifiques qui parlent de démocratie chez les abeilles ou que ce soit d'autres scientifiques qui vont parler de décisions libertaires ou voire même de décisions égalitaires, on est à chaque fois présent dans une série de communications qui nous permettent de penser, en effet, qu'on est très loin d'une décision de type autocratique. Car chacun des 15 000 individus, des 15 000 abeilles qui sont présentes dans l'essaim, ne va pas chercher individuellement tout cela. L'emplacement pour la colonie va se décider de manière collective, mais à partir des raisons que les autres vont donner, que les unes vont donner aux autres.
Plus ou moins bien argumenté, quelque part.
Il y a un peu de ça, c'est un problème d'argumentation et de discussion ensemble.
Faut-il remarquer aussi que la communauté de ces petits insectes possède donc une logique rationnelle ?
Oui. Oui, puisque c'est en fait en connaissance de cause que chacune des abeilles va désigner et envoyer des abeilles éclaireuses qui vont être en quelque sorte des émissaires pour retrouver ou pas cette nouvelle ruche, ce gîte, pour passer l'hiver. Ces délégués vont être en quelque sorte des animaux qui vont être spécialisés dans le logement. Elles vont être compétentes pour comprendre quel est l'intérêt. C'est souvent les plus vieilles abeilles et les autres vont les suivre parce qu'elles savent que ce sont les abeilles qui sont les plus compétentes dans l'éclairage, ou du moins celles qu'elles aiment le mieux comme éclaireuses. Elles vont visiter chacun des gîtes susceptibles de convenir. Et puis, une fois qu'elles auront choisi l'endroit, elles vont juger des qualités de chacun. Donc, c'est un jugement totalement subjectif qui va se faire pour chacun des individus. Mais pour pouvoir avoir ce jugement, il faut évidemment qu'elles soient capables de comparer les lieux, et donc de savoir quelles sont les qualités qui vont être importantes. Et là, ce jugement subjectif, elles vont l'émettre en disant « ben voilà, seulement pour moi, celui-là, il est mieux, celui-là, il est moins bien. » Autrement, il n'y aurait pas de raison de visiter plusieurs lieux à chaque fois. Et donc, ça implique une capacité à oublier les renseignements qu'ils avaient intégrés auparavant, qui vont devenir obsolètes parce qu'elles disent « ah, mais ce gîte-là est beaucoup mieux que l'autre, donc on oublie l'autre. » Et ça va permettre de le faire. Et cette information va être mémorisée pendant pas mal de temps, parce que la formation des seins dure quelques jours, on va dire en gros 2 jours. Et donc la durée de cette information va être ici bien plus complète. À noter aussi que les pourvoyeuses chez les abeilles ne vont pas apprendre cela d'autres abeilles, puisque les générations se succèdent. On a vu que les abeilles vivaient très peu de temps. Donc elles ne vont pas avoir le temps d'apprendre cela. Elles vont donc le définir à l'intérieur, sans essaimage.
Il s'agit donc d'une décision collective qui dépend de la communication entre les individus.
Tout à fait. C'est à partir de ces communications que les prises de décision vont être faites collectivement ou démocratiquement. Chaque année, il y a une question importante pour le choix de vie des abeilles, pour leur histoire de vie, c'est est-ce qu'on reste là ou est-ce qu'on s'en va ? Et c'est là qu'intervient le fameux livre de Thomas Sillet qui s'appelle donc « De la démocratie chez les abeilles » et qui va nous montrer que ces insectes sont capables de prendre des décisions consensuelles, mais qui sont très efficaces. Alors une décision consensuelle, c'est pas tout à fait comme souvent l'ont décrit les journalistes, une décision de type démocratique, avec une démocratie représentative. Certes, il y a des abeilles qui prendront plus de décisions que les autres, mais simplement parce qu'elles sont plus excitées, qu'elles en ont plus envie. Un peu comme quand on va au cinéma, il y en a un qui dit « Oh, mais ce film-là, il est super,
plus
il faut
d'argumentaire
qu'on aille le voir. »
Positif.
Voilà. D'autres qui ont des arguments plus rationnels. Et donc, c'est cet ensemble-là qui va permettre de prendre une décision, y compris pour ceux qui n'ont jamais vu le film et qui vont se dire « Bah alors, pourquoi pas, finalement, on va avec toi. » Voilà. Donc, il s'agit bien d'une décision consensuelle, mais qui n'est pas faite pour l'intégralité de la ruche. C'est une décision consensuelle en fonction d'un certain quorum. En fait, au début de l'été, On va voir donc cette vieille reine qui va être accompagnée de sa ruche, qui va partir avec un nouveau pour chercher un nouveau nid. Là, il va y avoir des descriptions de sites potentiels. Et donc, évidemment, le problème, c'est où est-ce qu'on arrive, où est-ce qu'on va. Et là, ça prend un certain temps. Pendant tout ce temps-là, il va y falloir que les abeilles dansent. Et pendant cette danse, on va voir petit à petit arriver un nombre d'abeilles qui collectivement vont être d'accord entre elles. On dit que là, que c'est une sorte d'adhésion démocratique qui va être complète. L'essaim va donc être piloté jusqu'à sa nouvelle demeure par ces individus qui ont dit « Oh, mais c'est super d'aller à cet endroit-là ». Et c'est ensuite que la reine et les abeilles vont s'installer dedans. Alors, notre ami Silène nous raconte évidemment qu'il a étudié tous les aspects de cette prise de décision. Hein, et c'est un chercheur tout à fait attentif à toutes ces choses de la nature. Donc, il a essayé de mettre à nu tous les mécanismes de prise de décision avec absence de leader, présence d'individus qui vont être compétents. Lui, il appelle ça un comité d'experts. Hein. Partage des informations, puisque chacun va développer toutes les informations possibles avec un débat contradictoire et pour arriver petit à petit au consensus de quorum. Alors, évidemment, l'aspect comportemental des abeilles est aussi relié par un aspect plus physiologique, puisque il y a évidemment toute une série d'éléments au sein des neurones qui vont permettre la prise de décision. Et donc, il nous montre que le fonctionnement de l'abeille va avoir en gros deux grosses entités cognitives avec qui vont un peu fonctionner dans la colonie d'abeilles. On va avoir non pas une seule opinion, mais on va avoir toute une série d'éléments hein, qui vont permettre la danse et qui vont permettre de prendre ce type de décision. Alors pour lui, ça ressemble un peu à ce qui se passe chez les primates hein, dans lequel la prise de décision va dépendre en fait d'un seul neurone ou d'un élément neuronal. Alors, il va décrire tout ça, hein. Il va décrire comment est-ce qu'il voit l'essaim se former comme un super organisme. Et évidemment, pour lui, ce super organisme sans chef va donner une sorte de leçon de sagesse collective par sa manière de prendre des décisions. Alors, c'était pas tout à fait la première fois hein, dont cette description avait été faite, puisqu'en fait, cette décision collective avait été, à partir de choix multiples, faite également chez les fourmis ou les présentes chez d'autres espèces. Et il y a de nombreux auteurs qui en avaient déjà un petit peu parlé.
L'essaim est une bonne manière de voir comment se prennent les décisions collectives chez tous les animaux.
En fait. Puisque là, il s'agit d'ensembles collectifs, en effet, dans lesquels les abeilles vont s'associer. C'est pas tout à fait vrai chez tous les animaux, mais ça nous permet de mieux comprendre la dynamique qui existe même dans un tout petit cerveau animal. Alors, ça permet de comprendre qu'il y a ici un choix multiple, puisque c'est une question à choix multiple auquel les abeilles répondent, et qu'ensuite, ce sont des choix concurrentiels. Il ne faut pas faire l'erreur non plus de s'installer au mauvais endroit. Et donc, il faut qu'il y ait un mécanisme, comme dans toutes les prises de décision, qui permette de réduire petit à petit les possibilités de choix. Et donc, cette réduction de possibilités de choix se fait par différentes manières, évidemment. Alors là, on a un chercheur comme Miller qui nous montre qu'on pourrait s'inspirer de ces décisions-là, par exemple, chez les termites. Hein. Les termites fonctionnent de la même manière. Les termites collaborent indirectement chacune pour fabriquer ces grandes termitières qui sont quand même des citadelles assez imprenables, assez grandes, hein, gigantesques.
Mais du coup, elles ne déménagent pas de la même manière que les abeilles.
Oui, mais elles vont créer un réseau qui va être un peu de la même manière, d'accord. Un réseau qui va permettre de décider de tout un ensemble de choses et qui vont réagir à l'environnement immédiat. Et elles sont capables de partir lorsqu'il y a un danger dans cette termitière. Mm-hmm. Miller nous dit on pourrait utiliser ça, par exemple, pour rendre efficace des réseaux Internet, pour rendre, par exemple, efficace une veille sur Internet pour surveiller des terroristes, évidemment.
Et voilà.
Alors, dans un autre chapitre, on va nous présenter comment des oiseaux qui volent en formation ou des poissons qui nagent en banc, par exemple, réussissent à ne pas se heurter. Tous ces modèles-là sont appelés des modèles d'auto-organisation. Alors, on verra que le mot auto-organisation n'est pas tout à fait valide, puisqu'en fait, c'est l'idée du fonctionnement un peu robotique. Une idée de fonctionnement un peu robotique de la nature qui permet de supposer qu'il y a de multiples petites prises de décision qui vont s'additionner pour former en fait ensemble une grande décision particulière.
Et oui, et il y a aussi les criquets migrateurs, ils migrent,
tout
comment
à fait.
Les décisions se prennent.
Là aussi, on voit bien qu'il y a des décisions qui vont être prises de manière... on va aboutir à des trucs très complexes, alors qu'en fait, il s'agit d'une migration simple où les individus se comparent les uns les autres. En fait, les criquets se passent d'un stade solitaire à un stade dit migrant. Entre ces deux stades, il y a toute une transformation biologique qui les fait ressembler à un Jekyll qui passe à un Mr. Hyde, certainement. Mais en fait, c'est pas du tout une foule qui part comme ça dans tous les sens. C'est au contraire un regroupement qui va se passer de manière synchrone. Et les individus vont maintenir une cohésion entre des dizaines de millions de criquets pour réussir évidemment à trouver de la nourriture. On voit que c'est assez proche finalement de cette notion sur l'essaim des abeilles.
Et donc, Sillet, en 2016, enfin récemment, a écrit le livre de la démocratie chez les abeilles qui tente d'élucider la prise de décision collective.
Alors, par rapport à Miller, Thomas Sillet est un vrai entomologiste, hein, c'est un vrai chercheur. Il a bien compris que cet aspect de la vie des abeilles était important. Donc, dans Honeybee Democracy, hein, il se concentre sur l'essaimage, sur la manière dont les abeilles mellifère, Apis mellifera, c'est-à-dire l'abeille domestique, prend sa décision. Évidemment, cet essaim, on connaît beaucoup moins. On sait qu'en général, elles vont partir de l'ancienne ruche, que ces insectes vont rester, que d'autres insectes vont rester pour élever une nouvelle reine et que d'autres partent. Donc on a bien ici une question de quorum qui va se poser. Et c'est là peut-être que la prise de décision est le plus importante. Car pendant longtemps, on a cru évidemment que les mécanismes d'essaimage consistaient juste avec une reine qui emmenait des individus et tout, et qu'il était grand temps de venir de se scinder parce qu'il y avait trop de monde dans la ruche. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il faut que la décision soit prise par un quorum suffisant pour que les abeilles partent. Si le quorum est pas suffisant, si elles sont à 30 ou à 40 et non pas à 10 ou 20 000, elles ne vont pas partir. Et c'est ce qui explique aussi les variations de quantité dans les abeilles. Dès qu'une reine a achevé son développement, les insectes qui ont déjà prévu leur départ vont à ce moment-là former cette grosse ensemble qu'on appelle l'essaim, cette grosse grappe d'abeilles où elles sont montées les unes sur les autres, qui va inclure une des pondeuses les plus âgées, une vieille reine qui n'est pas morte. Et c'est là qu'une centaine d'abeilles vont prendre la décision pour l'ensemble du groupe. Le groupe qui va quand même comporter jusqu'à 30 000 insectes. En général, c'est plutôt proche de 10 000. Et cette décision va leur permettre de garder de la chaleur ensemble pendant tout le temps où elles vont être à l'extérieur, et dès que les abeilles reviennent, elles vont permettre d'arriver à un consensus. Alors, c'est important que ce consensus se développe vite, parce qu'évidemment l'essaim, il est posé sur sa branche, il est très vulnérable, il peut être attaqué, sans compter évidemment que les éclaireuses doivent ensuite l'emmener quelque part à un endroit qui est quand même pas très très éloigné non plus.
Les abeilles ne fonctionnent pas d'une manière hiérarchisée avec des ordres de la reine, mais au contraire dans un réseau de décisions où chaque individu participe d'une démocratie collective, donc.
Oui, alors en effet, Lindauer, je vous l'avais dit tout à l'heure, a été un des premiers à s'intéresser à ces décisions collectives, parce qu'il avait remarqué que c'est une fraction seulement de l'essaim qui était envahi. Et évidemment, Lindauer, à l'époque, n'avait pas réussi à tester tout cela. S'il raconte, par contre, lui, comment il a utilisé de nouvelles techniques pour tirer des hypothèses nouvelles à partir de des connaissances qu'on avait acquises. Et ainsi pouvoir trier la manière dont ça se passait. Et donc, il a utilisé alors tout un ensemble de petites stratégies de recherche qui auraient été intéressantes à parler, mais il a surtout testé ainsi les hypothèses de Lindauer, et principalement les hypothèses qu'elles appliquaient un modèle de type démocratique. En fait, chaque éclaireuse va danser, et c'est bien la qualité du choix de chacune des volontaires, de chacune des éclaireuses, qui va permettre aux autres visiteuses d'aller les visiter. Petit à petit, ce groupe va devenir de plus en plus important. Les visiteuses vont donc être, ou les éclaireuses vont donc être de plus en plus nombreuses à trouver qu'un site est plus intéressant qu'un autre. Alors, ça ressemble beaucoup à la manière dont nous, on choisit une place de cinéma. On va être un petit groupe, on dit, tiens, on irait bien au cinéma ce soir. Il y en a un qui va dire, ah, tel film, il est génial. On va se pencher un peu sur ce qu'il est. Puis il y en a un qui va dire, oui, mais bon, il y a ceci ou cela. Un autre va nous dire, oh, mais moi, je l'ai vu, il est finalement pas si terrible que ça. Et puis, un autre va nous dire, par contre, il y a tel film qui est en train de passer en ce moment, on va regarder le résumé et puis on va tous prendre la décision à partir des informations qu'on aura d'y aller. Et ensuite, évidemment, s'il y a quelqu'un qui dit où vous allez, ben on va lui dire, on va voir tel film. Et s'il dit, oh, ben tiens, je viens avec vous, il n'y aura pas de problème pour qu'il vienne avec nous s'il prendra sa décision tout seul.
Tout à fait, finalement.
Tout ça va dépendre d'un quorum, puisqu'évidemment, on ira au cinéma ensemble en fonction d'un quorum. Mais si on est 10 au départ et qu'il n'y en a que 9 qui y vont, c'est pas très grave. L'autre, s'il a envie d'aller ailleurs, à ma foi, il fait son propre choix. Donc c'est ça l'idée d'une décision par quorum. Évidemment, ces décisions par quorum chez la plupart des espèces animales sont très très importantes. Elles ne se copient pas aveuglément les décisions. Au contraire, chaque danse va être porteur d'informations sur un site que chacune a parfaitement identifié comme tel. Et c'est ça évidemment qui permet de penser que ce sont des décisions quasi libertaires qu'on va retrouver chez ces petits animaux.
Et bourgeois, entends-tu passer dans ta rue une parade d'espérance, et qui chante et qui danse, évoque, évoque la galère, le cap sur la bohème, évoque, évoque nos chimères, le cap sur le Freden, et des cigales dans la fourmilière, et vous ne pouvez rien y faire, et des cigales dans la fourmilière. C'est pour ça, allez, j'espère.
Je vais. soit entendu, passer dans ta rue. Une parade de scandale, c'est les enfants là-bas. Laisse ça jongler, s'accroche le feu, et ça fait boum boum dans les oreilles. À votre bon cœur, mesdames et messieurs, à votre bon cœur ou pas, c'est pareil. Il y a des cigales dans la fourmilière, et vous ne pouvez rien y faire. Il y a des cigales dans la fourmilière, et c'est pour ça que j'espère. Et pour toi, entends-tu, passer dans ta vie. Une parade de fortune, c'est les oiseaux sans plume. Et qui s'acharnent, on n'a que mal à vivre comme ils respirent. Quitte à crever la dalle, ils ont tant de choses à dire. Il y a des cigales dans la fourmilière, et vous ne pouvez rien y faire. Il y a des cigales dans la fourmilière, et c'est pour ça que j'espère. Passer dans ta rue, une parade de fil en fil.
C'était Les Cigales par le groupe La Rue qui est à nous.
Les abeilles sont donc efficaces. La vie sociale des abeilles nous apprend deux choses. 1. Les décisions prises ensemble sont prises par effet de quorum et par groupe d'affinité, et elles sont bien plus efficaces démocratiquement que la plupart des systèmes politiques. 2. Les chercheurs au service du capital rêvent d'utiliser ces fonctionnements comme des algorithmes sans acteurs dans un capitalisme auto-organisé au profit des exploiteurs. Ce n'est pas la première fois que des chercheurs illustrent les façons de fonctionner des animaux sociaux pour ensuite en tirer des avantages pour le capitalisme. Ainsi, la théorie de l'auto-organisation permet d'élaborer des algorithmes calculant une organisation plus rationnelle du travail. On se base sur les termites pour penser comment on pourrait faire travailler les hommes. Ces scientifiques du capital rêvent d'utiliser ces fonctions mathématiques pour organiser leur production et leur marchandage. Le capitalisme sait donc aussi très bien se passer de la dictature pour organiser ses profits. C'est ce qu'a fait Peter Miller, par exemple, dans Smart Swarm, l'essaim intelligent, qui nous explique comment des fourmis, des termites et autres insectes sociaux se sont adaptés au cours de l'évolution pour fonctionner efficacement en groupe. Et ces essaims intelligents dont parle Miller, ils devraient fonctionner, d'après lui, selon le principe de l'auto-organisation. Alors, il y a trois mécanismes qui sous-tendent ce comportement-là. Le premier, c'est que dans les sociétés complexes, il y a une décentralisation nécessaire, avec une résolution partagée des problèmes et une multiplicité des interactions. Miller montre que les humains pourraient appliquer ce principe pour résoudre les problèmes du capitalisme, en réagissant par exemple de façon flexible à des circonstances imprévues. Alors il parle comme ça de l'amélioration de American Air Liquide, l'entreprise qui a son siège au Texas et qui se répartit des tâches à la manière des fourmis. Ça permet évidemment d'avoir des coordinations de livraison du gaz, etc., qui sont mieux à travers le 3500 km de réseau, par exemple, et de pipeline. Mais en utilisant ce comportement des fourmis, beaucoup de spécialistes veulent fabriquer des modèles informatiques qui vont permettre au système dit de s'auto-organiser. En réalité, on voit bien que ça se passe quand même par en haut, puisque c'est quelqu'un qui organise par en haut comment les autres doivent être organisés par en bas. Alors ça leur permet d'économiser évidemment de l'argent, puisqu'il y a plus de 15 millions d'euros qui ont été économisés grâce à ces dispositifs. On l'oublie trop souvent, mais la science est aussi faite pour améliorer le fonctionnement du capitalisme. Et les théories d'auto-organisation se permettent de gérer au mieux l'exploitation. En fait, de nombreuses tâches gratuites sont déjà exploitées par les marchands sans qu'on en parle, et les exploiteurs savent l'utiliser. Les patrons, par exemple, exigent souvent des travailleurs qu'on travaille ensemble, en formant des groupes efficaces, et cela sans nous rémunérer davantage, si on est plus coopérant que si on l'est pas, si on n'aime pas ses voisins. Le fait d'apprécier les autres va donc faire partie de notre salaire. De la même manière, le travail est passé de plus en plus de l'épicier au consommateur. Maintenant, chacun doit remplir tout seul son propre caddie. Et donc, c'est un travail gratuit que les exploiteurs nous font faire. Il n'est évidemment pas rémunéré, et les individus qui vont travailler gratuitement pour ce vieux monde peuvent évidemment supposer qu'on peut imaginer une exploitation durable et pourquoi pas auto-volontaire. Seulement voilà, les abeilles ne nous racontent pas tout à fait tout cela. Bien au contraire, leurs sociétés sans chef sont aussi des sociétés plus insouciantes, plus paresseuses, où chacun dispose de sa propre vie comme il l'entend. Les décisions sont choisies, nulle marchandise, nul rapport d'exploitant, mais un monde bien plus libertaire qui existe aussi chez les mangoustes, chez les attelles et chez beaucoup d'autres animaux. Car l'évolution est d'abord une écologie évolutive. L'évolution n'a pas amené la marchandisation du monde. Bien au contraire, n'en déplaise aux écolos ou à ces chercheurs capitalistes, le capitalisme n'est pas un système mal organisé qu'il faudrait améliorer par une auto-organisation. Non, le capitalisme n'est rien d'autre qu'une exploitation des humains, une impossibilité de vivre comme un être humain. L'auto-organisation reste une pseudo-solution, d'abord marchande. Mais l'humanité sait que son avenir est vraiment libertaire pour elle et pour l'ensemble du monde.
Ainsi se termine notre émission de Science en Liberté. Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez toujours nous contacter sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, Science Libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et bousculer toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction est d'Hicham Chahidi, et nous allons conclure sur « Dans l'ombre et la lumière », interprété par Truth and Nose.